Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service de ces jours. Merci à tous ceux qui viennent, tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Quel est le mode de gestion efficace des eaux souterraines de la RDC? C'est de cela que nous allons parler tout à l'heure avec Serge Pangou, géographe et hydrologue. On aura également Dominique Sowa, directeur général de l'ONG ADIR, Action pour le développement des infrastructures en milieu rural. Monsieur Serge Pangou est déjà en ligne, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieu de Nyangasala, mise en onde au micro. C'est jeudi, Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Encore une fois, bienvenue dans cette deuxième tranche d'Okapi Service consacrée à la gestion des eaux souterraines. Eh bien, en République démocratique du Congo, de nombreuses personnes recourent de plus en plus aux eaux souterraines pour les besoins de ménage. Des bornes fontaines sont aménagées dans plusieurs quartiers à travers le pays, et particulièrement à Kinshasa actuellement. Dans plusieurs quartiers, il y a de plus en plus des bornes fontaines. Et selon les experts, les eaux souterraines provenant des nappes phréatiques sont épuisables. Par ailleurs, ces eaux sont exposées à la pollution et cela n'est pas sans conséquence sur la santé de ceux-là qui la consomment. Alors, quel est le mode de gestion efficace des eaux souterraines de la République démocratique du Congo? Serge Pangou est géographe et hydrologue. Encore une fois, bonjour.
Bonjour aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par eaux souterraines?
Oui, eau souterraine, c'est-à-dire c'est la partie dans le cycle hydrologique, pour un peu remettre tout le monde dans l'ambiance. Il y a donc de l'eau de surface, c'est-à-dire l'entrée, c'est sur les pluies, et lorsque il pleut, il y a une partie d'eau qui s'infiltre dans la roche et qui reste, qui demeure. C'est ce qu'on appelle l'eau souterraine, en bref. C'est-à-dire, c'est une partie d'eau, à part celle qui ruisselle que nous voyons à la surface, les cours d'eau qui courent, il y a des réserves d'eau qui sont dans la roche et donc emprisonnées dans le sous-sol. Bien. Voilà ce qu'on appelle de l'eau souterraine.
Oui, et quand on dit que ça provient des nappes phréatiques, qu'est-ce que cela veut dire?
Oui, nappe phréatique, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle roche. C'est-à-dire, ce sont des roches magasins, diront-on, c'est-à-dire qu'il y a dans la roche, il y a des pores qui emprisonnent l'eau et qui font que lorsque il pleut, comme j'ai dit, il y a infiltration, et lorsque l'infiltration atteint les roches qui peuvent les emmagasiner, alors l'eau reste dans la roche et constitue la réserve souterraine. C'est d'ailleurs cette réserve qui fournit les sources d'eau que nous voyons en surface.
Bien, donc on voit ces eaux peuvent remonter au travers des sources d'eau, mais oui. Il y a de plus en plus aujourd'hui, par exemple à Kinshasa, les gens qui ont recours au forage dans leurs parcelles.
Oh. Alors, oui.
Alors dites-nous comment doit se faire une bonne gestion de ces eaux souterraines.
Voilà. D'abord, en amont, comme j'ai dit, que cette eau dépend donc de la quantité des précipitations qui tombent dans la région et qui s'infiltrent dans la roche. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'infiltration ne se fait pas de manière correcte si on perturbe perturbe les milieux naturels. Et donc, cette eau souterraine a une, nous avons ce que nous appelons la réserve souterraine, sera alimentée quelque part. Donc il y a une zone où il y a des pluies qui pénètrent facilement dans la roche et qui vont aller se stocker autre part. Par exemple, à Kinshasa, nous prenons un peu plus au sud-ouest, vers Selo, Kasangoulou. C'est là-bas que se recharge la nappe de Kinshasa. Alors, pour que cette eau soit toujours permanente, c'est-à-dire durable, il faut que cette zone-là ne soit pas perturbée. Perturber comment? Par exemple, on coupe la végétation sans faire attention, on augmente à ce moment-là le ruissellement et l'infiltration diminue, c'est-à-dire que la nappe, elle aussi, sera rechargée de manière un peu plus biaisée. Donc voilà, et ici à Kinshasa, le vrai problème c'est quoi? C'est que, évidemment, avec notre climat très généreux en ce qui concerne les précipitations, la nappe est assez fournie, mais malheureusement, actuellement, on assiste à une vandalisation, un vandalisme de la nappe. C'est-à-dire que, sans tenir compte de la distance, du distancement entre les puits, chacun veut forer la nappe là où il veut et comme il veut, avec les matériels qu'il veut, sans tenir compte du voisin. Alors, qu'est-ce qui se fait? C'est que les puits se multiplient et un jour, on verra que la nappe ne produit plus de l'eau parce qu'elle sera à ce moment-là sous pression et il y aura des problèmes. Voilà, donc, il ne faut pas d'abord, commencer comme ça à dévégétaliser les zones de recharge. Ensuite, il ne faut pas non plus faire des forages n'importe où. Il y a une réglementation, il y a une certaine distance à respecter et certains débits aussi à observer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire impunément. Voilà, parce que l'eau, comme je l'ai toujours dit, c'est une ressource. Certes renouvelable, mais très fragile. C'est-à-dire, lorsque l'équilibre du cycle est rompu, on n'a plus rien et on n'est plus la ranger. Donc c'est vraiment très dangereux ce qu'on fait à Kinshasa.
Est-ce qu'on peut dire que ces eaux souterraines se retrouvent partout ou bien c'est à des endroits bien localisés?
Non, les eaux souterraines, c'est-à-dire que ces nappes sont à des distances, disons à des profondeurs très différenciées, mais par exemple ici chez nous à Kinshasa, elles sont dans presque sous nos pieds, partout il y a de l'eau, parce que nous avons une bonne roche qui est en bas, qui est le grès, et qui emprisonne facilement, qui peut facilement servir de roche magasin. Mais malheureusement, cette nappe ne se recharge pas sur place ici. Je vous ai dit que la zone de recharge est un peu, si je suis les travaux du professeur Makoko Peasonam, professeur Ndembo, c'est-à-dire que cette nappe se recharge à partir du sud-ouest. Ce n'est pas à partir de Kinshasa même. Donc il faut qu'on fasse très attention dans cette zone-là. Voilà ce que je peux dire pour le moment.
Bien, nous avons en ligne Dominique, Monsieur Dominique Soa. Il est directeur général de l'ONG ADIR, Action pour le développement des infrastructures en milieu rural. Monsieur Dominique Soa, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Nous parlons aujourd'hui de la gestion des eaux souterraines qui proviennent des nappes phréatiques. Aujourd'hui à Kinshasa, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes fontaines pour faire face aux difficultés d'eau de la régie des eaux, comme nous le savons. Alors comment bien gérer ces bonnes fontaines? Parce que d'après le monsieur Serge Pangou, hydrologue qui vient d'intervenir, on ne doit pas placer des bonnes n'importe comment, comme ça s'est fait aujourd'hui.
Oui, il a parfaitement raison. C'est que il y a deux éléments essentiels à retenir en ce qui concerne l'espacement entre les forages, mais aussi il y a tout le problème de la contamination des nappes superficielles, parce que En prenant l'exemple de Kinshasa seulement, on n'a pas qu'une seule nappe, on a des nappes superficielles qui se retrouvent surtout dans la zone basse de Kinshasa et qui est souvent captée par la plupart des forages qui sont réalisés à Kinshasa. Celles-là, généralement, elles sont soumises à une facilité de pollution à cause des installations sanitaires, à cause des piles, des batteries, à cause de tous les déchets métalliques qui peuvent être dilués et dissous dans l'eau, créer une pollution d'origine chimique et pas avoir aussi une pollution d'origine bactériologique. Mais s'il est aussi vrai qu'il y a des parties dans la zone de Kinshasa où les nappes sont beaucoup plus profondes et qui sont généralement bonnes, mais qui ne sont pas inépuisables, parce que, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'épuisage et la recharge. La recharge est essentiellement faite par les pluies qui s'infiltrent dans le sol, pas souvent, comme il l'a dit, à l'endroit où on se trouve, mais parfois beaucoup plus loin. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte et avoir aussi un monitoring de surveillance de la nappe. Si on puise, il faut quand même qu'il y ait des piézomètres partis par là pour voir si on n'est pas en train de prendre plus qu'il n'en faut, plus que la recharge. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, nous sommes dans une situation où l'accès à l'eau potable est devenu difficile. Chacun se bat pour essayer d'exister. Il va être difficile d'interdire à quelqu'un de trouver des solutions pour pouvoir survivre. C'est ça le drame. Et là, on comprend, mais la réparation sera difficile à faire.
Bien. Et pour avoir ces eaux souterraines, il faut aller jusqu'à quelle profondeur?
Comme je vous ai dit, ça varie essentiellement si l'on prend le cas de Kinshasa. Bien que Kinshasa ne soit pas le Congo, qu'il faille considérer l'ensemble du territoire national, les profondeurs varient en fonction de ce qu'on appelle l'écran, c'est-à-dire la couche imperméable qui permet de retenir les eaux d'infiltration de sorte qu'elles stagnent au-dessus de cette couche imperméable. L'intervenant tout à l'heure a parlé du grès. Il y a bien sûr le grès tendre, mais il y a aussi le grès induré qui sont secs et donc qui ne gardent pas de l'eau. Dans d'autres parties de la République, c'est le granit. Dans d'autres, c'est aussi le calcaire non fissuré. Donc, il y a toute une série de formations géologiques qui font écran pour que l'eau ne continue pas la course folle, pas sa course folle, mais continue sa course dans le fin fond de la terre. Et ce sont ces écrans qui permettent de retenir les eaux et en fonction de leur emplacement et de la profondeur à laquelle se trouve ce sol ou ces formations rocheuses écrans, on trouvera les profondeurs différentes. Il y a, si je prends Kinshasa, vous avez la partie communément appelée Est, Kinshasa Est, c'est toujours par rapport à la Gombe. Mmh. En réalité, c'est le nord de Kinshasa qui est représenté par la commune de Lancélé. Et si vous prenez, là-bas, on a on peut aller facilement à des profondeurs qui vont jusqu'à 150 mètres de profondeur. Par contre, si vous allez dans la partie sud-ouest vers le plateau des professeurs, par exemple, vers Kisenso, ou encore la partie vers Mamakoko, donc du côté de Materbe, vous avez des profondeurs de 200 mètres à 180 mètres. Et si vous prenez l'IPEN aussi, on est autour de 200 à 180. Donc ça varie en fonction de ce
du relief.
Donc je vous ai fait, j'ai fait allusion.
Voilà. Bien, nous parlons du mode de gestion efficace des eaux souterraines de la RDC. Vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au 081 890 63 94.
Résolument engagé à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, la BRA Congo lance la troisième édition du prix Pierre Castel RDC. Vous êtes de nationalité congolaise, âgé entre 18 et 45 ans et êtes à la tête d'une entreprise légalement constituée évoluant dans l'agriculture, l'agroalimentaire ou l'agritech. Vous êtes résident de l'Équateur, Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala ou Sud-Ubangi. Le prix Pierre Castel vous revient du 15 mars au 15 avril 2022. Participez en soumissionnant votre projet sur le site www.bracongo.cd pour gagner une dotation financière de 10 000 ou 15 000 euros et des formations en ligne avec le Centre International de Genève. Pour plus d'informations, contactez-nous au 082 85 00 112. BRA Congo Durable, engagé pour les générations futures.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Bienvenue sur Okapi, nous parlons aujourd'hui dans Okapi Service de la gestion efficace des eaux souterraines. Nous avons en ligne Christian depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Gautier, je voulais un peu rectifier, ce n'est pas Christian, mais c'est plutôt Crispin Olumbakabishki.
Crispin depuis Lubumbashi, bienvenue. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux eaux souterraines, à la gestion des eaux souterraines?
Merci beaucoup pour la thématique d'aujourd'hui. Je salue également notre invité en passant. Comme vous le savez, monsieur Kachama, ici précisément à Lubumbashi, nous avons un problème dans cette ressource parce que la plupart, donc, disons, les 60% de la population ne consomme pas une eau potable et nous sommes obligés souvent de recourir à cette eau souterraine. Ici, cette eau souterraine est communément appelée Kishima. Kishima, c'est-à-dire dans chaque parcelle, chaque personne est habilitée de s'approprier d'une eau souterraine dans sa propre parcelle. Alors, la question que je voulais un peu poser à notre invité est la suivante. Bien que cette pratique et vraiment, d'une manière générale, toute personne est habilitée à utiliser cette pratique. Mais il y a un problème qui se pose. On ne parvient pas à utiliser vraiment les normes conformes. Vous allez voir quelqu'un qui se réveille l'un des quatre matins et cherche deux ou trois personnes pour creuser un puits. Et puis, à partir de là, ils vont mettre des dalles et ainsi de suite. Et on ne sait pas. Et puis, cette eau-là est utilisée par plusieurs personnes. À des fois, pour votre information, on utilise cette eau-là comme une eau potable pour subvenir peut-être à notre besoin.
Comme une eau de boisson.
Oui, eau de boisson. Nous consommons ça, je vous dis la vérité. Donc, les 80% de la population ici à Lubumbashi, tout le monde connaît vraiment ces systèmes. Nous utilisons cette eau-là. Alors, je voulais un peu poser Vemba à notre invité, parce que il arrive à des fois, il y a d'autres personnes qui mettent un peu des produits chimiques, ils mettent dans cette eau-là, soi-disant, ce sont des purifiants. Sans tenir compte de la profondeur, sans tenir compte de la quantité d'eau qui se trouve à l'intérieur de ces puits, et les gens s'approprient pour prendre cette eau-là, utiliser non seulement pour les travaux ménagers, mais aussi pour leur vie. Donc ils peuvent prendre ça comme
pour la consommation. D'accord.
Ça. Je voulais un peu poser un peu quelles sont vraiment les conséquences. Un puits qui est fermé, à l'état libre, et lorsqu'on y met des produits chimiques entre autres aquatas, soi-disant que c'est pour purifier l'eau, alors que les rayons solaires ne permettent pas ces puits-là, quelles sont les conséquences qui peuvent vraiment submerger dans les cas contraires? C'est la question que je voulais un peu poser.
Merci Christian. Merci Christian. D'accord. D'accord, merci Christian depuis Lubumbashi. Monsieur Serge Pangou, à vous la parole.
Oui, merci Jordi, merci à notre ami Christian. Évidemment, comme venait de le dire le directeur général de la DIR, que je salue en passant parce que je connais bien, vous voyez, lorsque vous parlez de puits, justement, Jordi, de ce que vous avez appelé la nappe phréatique, c'est-à-dire les nappes qui sont superficielles. Ces nappes-là sont en contact direct avec l'environnement de la parcelle. C'est-à-dire, vous savez quelle est notre nos habitudes habituelles. Nous sommes, pour ne pas me répéter, nous avons des toilettes de tout genre. J'ai été à Lumbashi, j'ai grandi là-bas, je connais. J'étais à Kasungami, partout, Naviundu, partout. Même à Kalubu là-bas, je sais que cette pratique est réellement utilisée parce que l'eau à Lumbashi est assez rare. Mais le problème, le vrai, c'est lequel? C'est que, un, les toilettes, souvent les fosses septiques, là où elles existent, ne sont pas bien conçues. Parce que, si vous regardez notre système d'assainissement, il est tout à fait défaillant, et ça dans toutes les villes presque. C'est-à-dire que les fosses septiques ont des puits perdus qui sont dans la parcelle même, donc au contact de la nappe, et dans la même parcelle, on creuse un puits, et quand on prend ce puits, on met peut-être un pneu au-dessus pour qu'il ne s'écroule pas, mais il n'y a aucune autre précaution. C'est-à-dire qu'il y a facilement risque de contamination, surtout par les déchets humains, c'est-à-dire les matières fécales. Et comme a dit notre ami de la dire, il y a des toutes sortes de déchets, des métalliques, des métaux lourds, c'est-à-dire il y a des, et puis il vient de nous dire qu'on y met des produits. Et quel produit? Et à quelle quantité? Et pour quelle purification? C'est-à-dire que cette manipulation devient à la fois dangereuse et hasardeuse. C'est-à-dire que lorsque on prend le risque de forer soi-même, de creuser, parce que ça c'est pas forer, de creuser un petit puits, quand la nappe est tout proche, comme en Gaba ici, on est capable de prendre de l'eau soi-même sans passer par la régie des eaux, mais cette eau-là, elle est de quelle qualité? Parce que quel genre de produits ils mettent dans le puits? Et après,
certains mettent le sel, le voilà. Sel pour voilà, c'est
exact.
Comme
exact.
Ça qu'ils entretiennent
mais
leur puits.
Maintenant, tous ces sels-là, parce que cette nappe-là, en dessous, il y a une circulation de l'eau. C'est comme ça qu'il y a de l'eau chez eux là-bas. Cette eau-là ne vient pas de sous l'herbier là, elle vient de partout. C'est-à-dire qu'il y a communication entre l'air phosphétique, l'air nappe et les zones avoisinantes. Ce qui fait que il y a gros risque de contamination. Et quand vous voyez Lumbashi, c'est un terrain plein de métaux lourds. Alors, c'est vraiment dangereux. Moi, je ne sais pas quel conseil donner, mais moi, je trouve que pour prendre le minimum de précautions, il faille prendre cette eau-là d'abord, un, la stocker, puis la purifier, mais pas dans le puits. Parce que la quantité de sel, comme vous dites, je ne sais pas quel type de sel, il y en a qui mettent du chlore, j'ai vu ici à Kinshasa, en quantité inconsidérée. Alors, lorsque vous mettez des produits chimiques dans le puits, ce produit-là ne reste pas là, il migre. C'est-à-dire qu'il se balade à travers, il contamine toute la nappe. De la même manière, il ne faille pas prendre cette eau-là comme eau de boisson directement. Peut-être qu'il faut des mesures, des précautions comme la bouillir et la filtrer, parce que vous voyez, la majorité des zones où on utilise cette eau, ce sont des zones qui ne sont pas convenablement aménagées, qui ne sont pas assainies. C'est, on trouve des toilettes qu'on appelle coup direct, vous connaissez Jordi. Et donc, coup direct, là, ça se trouve juste
à côté de
c'est-à-dire au contact de la nappe.
Oui.
Et quand vous voyez le fond, vous regardez le fond de ces toilettes coup direct, c'est quoi? Vous voyez qu'il y a un liquide. Mais ce liquide-là, ben, il filtre. Donc il va dans la nappe. C'est ce que le DG d'Adir a dit. Il y a de contamination microbienne, il y a de contamination de tout genre. Et donc, c'est une eau vraiment, vraiment dangereuse. Et à ne pas confondre avec les aquifères qui sont plus bas. Et là, c'est la roche. Ce sont des réserves d'eau qui sont pas aussi exposées que celles des nappes phréatiques. Parce que avec une simple bêche, tout ça, on ne peut pas prendre de l'eau dans une aquifère. C'est très compliqué. Parce que c'est dans la roche. Il faut forer la roche avec le matériel approprié. Et donc, c'est, je dirais que pour notre ami, il doit savoir que cette eau-là n'est pas à consommer directement. Ça, c'est la première précaution. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas sa composition. Et moi, j'ai vu, quelque part à Montpellier, il n'y a pas quelque temps ici, nous avons fait quelques analyses, mais on trouve toutes sortes de germes dans ces eaux depuis là. Oui. Toutes sortes de germes.
D'accord.
Surtout, contamination par les matières fécales.
Oh là là. Bien, oui. Monsieur, on va donner la parole à Dominique Soa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces eaux souterraines ne soient pas contaminées, monsieur Soa?
Ah, très difficile.
Bon, merci. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Lorsqu'on regarde les directives de l'OMS en matière de sources de pollution de nappes d'eau souterraine, moi j'englobe tout, il y a des distances à respecter. Par exemple, lorsqu'on a une contamination dans un sol sablonneux, le point de contamination ou source de pollution, j'ai dit matière fécale, je précise bien, pas de métaux lourds comme le plomb et autres, donc il faut que ça soit au moins à 11 mètres de point de contamination, c'est-à-dire le puits doit être à cette distance-là. Et ensuite, la pollution verticale est environ de 7 mètres. Donc, si ce n'est pas l'inverse, à moins que je mélange le tout, mais il y a des distances à respecter. De deux, lorsqu'on retire ces eaux qui sont superficielles, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, ce n'est pas la composition chimique n'est pas connue, parce que ce n'est pas parce que l'eau est claire. Il y a certainement des matières en suspension ou des minéraux dissous dans cette eau que vous ne connaissez pas. Il faut nécessairement faire une analyse physico-chimique et bien sûr une analyse bactériologique. Maintenant, une fois que cela est fait, ça peut vous donner une indication de ce qu'il faut faire. Soit bouillir, c'est la première réflexe, c'est bouillir l'eau, donc le retirer de son point là où il est, dans le puits, le bouillir, et après vous pouvez supposer que vous avez tué toutes les bactéries. Je sais qu'il y a actuellement des produits de traitement des eaux, mais ce produit, pour les utiliser, il faut connaître la composition chimique de l'eau que vous voulez traiter. C'est important de le savoir, sinon vous pouvez soit faire un traitement inutile, soit vous faites un traitement qui va entraîner d'autres réactions chimiques avec ce qui est déjà dans l'eau, et tout ça c'est beaucoup plus complexe. C'est assez difficile pour le commun des mortels, c'est quelque chose que les professionnels doivent faire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le manque d'eau amène les gens à consommer n'importe quelle eau, à utiliser n'importe quelle technologie pourvu qu'ils puissent exister. Parce que comme on le sait, sans eau, on n'existe pas. Sans eau, on meurt dans quelques jours. Et notre corps étant composé à plus de 70% de l'eau, il est normal que les gens s'abreuvent pour pouvoir continuer à vivre. Donc il y a des précautions à prendre, c'est pourquoi il est souvent recommandé que les gens recourent à des professionnels pour faire ce travail-là. Pour revenir à notre ami de Lubumbashi, ils doivent savoir que le sol du Katanga n'est pas n'importe quel sol. C'est un sol qui contient beaucoup de minéraux, et ces minéraux se dissolvent dans l'eau, et dans l'eau, ils restent invisibles. Il y a des quantités qui sont déterminées par les normes de l'OMS, des types de minéraux en certains dosages qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, tout ça, il faut des professionnels. Et la meilleure façon, c'est lorsqu'on a un puits comme ça, on va vite à l'OCC, l'Office congolais de contrôle, qui dispose de laboratoires, pouvant vous donner une indication sur la composition de l'eau. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi vous rabattre sur la régie des eaux. Ils ont quand même des laboratoires, en dépit de toutes les critiques qu'on leur fait. Il y a aussi les universités, comme les écoles, l'école de santé publique, et certaines universités qui peuvent faire les analyses pour vous et vous donner une indication de ce que vous buvez. Parce que ce n'est pas le jour où vous le buvez que vous avez des problèmes, mais ça peut se manifester plus tard. Vous pouvez consommer, accumuler des minéraux dissous jusqu'à la dose qui vous fait mal et vous commencez à développer des maladies dont personne ne sait l'origine. Donc c'est important toujours de prendre des précautions, de puiser l'eau de son puits, d'en faire examiner, de prendre le soin de faire examiner ça auprès de l'organisme comme l'ECC, et puis après de voir si on peut la stériliser. La stériliser, il y a deux façons. Vous pouvez stériliser en bouillant, en la portant à une température de 100 degrés, ou bien vous pouvez utiliser le chlore, mais à des doses qui sont appropriées à la quantité qui est en face. Donc tout ça demande un travail de professionnels et des gens qui ont l'habitude de le faire. Et ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et ça, c'est très dangereux actuellement. On voit les gens dire l'eau est potable, mais elle n'est pas potable parce qu'elle est limpide. Être limpide, ça ne veut pas dire que l'eau est potable. Donc il faut, j'insiste sur la nécessité de l'analyse et avant de consommer l'eau qui se présente en face de soi.
Bien, on va accueillir un auditeur depuis Bounia, héritier. Bonjour.
Bonjour, Jordi. Bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la gestion des eaux souterraines?
Je voudrais poser la question aux invités. Il nous faudrait énumérer les zones. Il nous faudrait énumérer les zones et la profondeur où nous pouvons avoir la profondeur que nous pouvons faire pour que nous ayons de l'eau potable. Et nous énumérer les zones, les milieux de la RDC, parce que la RDC n'est pas non seulement à Kinshasa, mais la RDC est si grande. Alors, il nous faut énumérer, parce que nous avons beaucoup de zones climatiques. Par exemple, chez nous, à Butembo, c'est la zone pluvieuse. Alors, il pleut chaque jour. Alors, pour que nous ayons de l'eau potable, j'aimerais savoir à quelle profondeur réellement il faudra faire pour que vous atteigniez l'eau potable.
Bien, merci. Monsieur Serge Pango, à vous la parole.
Bon, salut à notre ami de Butembo. Comme vous avez dit, d'ailleurs, il y a mon collègue qui l'a dit tout à l'heure, les nappes, on ne peut pas vous dire à quelle profondeur à Butembo vous allez avoir de l'eau potable. Et donc, l'affaire de potabilité n'est pas une affaire de profondeur. Et c'est une affaire de qualité plutôt de l'eau qui se trouve dans votre nappe. Et cela dépend des pratiques dont nous avons parlé tout à l'heure, lui et moi. Mais maintenant, à Butembo, moi, bon, je ne connais pas très fort, j'ai peut-être que la DIR a pu faire des travaux à Butembo, moi, j'ai jamais fait des recherches là-dessus. Et donc, c'est pour vous dire ceci, c'est que, comme on vous a dit, en règle générale, il faut d'abord faire analyser votre eau là, parce qu'il ne s'agit pas de la profondeur.
Oui.
Bien sûr, plus la nappe est profonde, plus elle peut échapper à la pollution, parce que souvent la pollution vient de surface. Mais Butembo, je ne connais pas la piézométrie là-bas, et donc je n'ai pas une idée fixe, mais je peux dire ceci. Si à Butembo, vous avez dit, nous sommes dans la zone équatoriale, et qui plus est, zone équatoriale de montagne, donc il pleut même de manière un peu plus permanente qu'à Kisangani, parce que là, il y a aussi le bénéfice de l'altitude. Vous devez d'abord, un, savoir comment extraire votre eau, et c'est quelle eau, parce que si je vois Kisangani, les nappes de Kisangani, les nappes phréatiques sont
bondée d'eau parce qu'à Kisangani, on n'a pas besoin d'un dessin. Dès qu'on se balade, on voit même des parcelles qui sont presque noyées dans l'eau. Donc, la nappe, elle est vraiment superficielle. Est-ce que c'est le cas à Boutembo? Je ne sais pas. Si c'est cela le cas, donc tous les problèmes que nous avons posés ici pour Kinshasa, pour le Lubumbashi, qui parle de contamination, donc Boutembo aussi en fait partie. Si vous regardez maintenant le conseil que mon collègue vient de nous donner, et moi-même, il faut d'abord, vous extrayez votre eau pour être sûr. Vous la faites contrôler. Une analyse d'eau presque dans toutes les universités. Moi, je sais qu'à Boutembo, j'ai un collègue avec qui nous avons étudié à Gand, qui est là-bas, bienvenue. Il est chimiste, donc il est capable d'analyser de l'eau facilement. Il faut faire d'abord le premier acte, c'est-à-dire vous donner du mal. Et mon collègue a parlé de l'OCC. Je crois qu'à Boutembo, il y a des laboratoires de l'OCC. Si pas à Boutembo, mais à Goma. De l'eau à analyser, c'est pas compliqué. Vous prenez quelques flacons d'eau que vous prenez de votre nappe, vous l'amenez au laboratoire, on examine quels sont les problèmes. Si c'est au point de vue bactériologique ou chimique, on va vous dire, l'OMS a dressé un tableau pour vous donner la concentration de chaque élément dans l'eau pour qu'elle soit appelée potable. Donc, à mon niveau, je ne sais pas vous dire à quelle profondeur il faut aller pour prendre de l'eau potable. Étant donné, je répète, que pour moi, et j'ai pris pour le bon sens, la potabilité ne dépend pas de la profondeur, mais bien de l'environnement dans lequel la nappe est préservée. Voilà un peu, aujourd'hui, ce que moi je peux en dire.
Bien, une autre question, Dominique Soa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer un puits? Au quotidien, il y a certains, comme je l'avais dit, qui utilisent les sels, mais quelle est la meilleure façon d'entretenir, disons, le forage pour éviter tous ces cas de contamination? Monsieur Dominique Soa? Dominique Soa, vous êtes là? Ben, je pense qu'il est parti. Monsieur Serge Pangou, je vous adresse alors la question. Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour bien entretenir un puits, au quotidien pour éviter les cas de contamination?
Voilà. D'abord, l'environnement du puits. Comme a dit mon collègue, lui qui est praticien, parce que lui fait beaucoup de forage, il faut d'abord le distancement par rapport aux sources potentielles de contamination. Ces sources sont les fosses septiques, sont les zones, par exemple, les décharges publiques, tout ça. Il faut s'éloigner le plus possible de ces sources de contamination potentielle. Ça, c'est première précaution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire votre puits à 2, 3 mètres ou 5 mètres de votre fosse septique. C'est très dangereux. Ensuite, il faille protéger le puits, surtout les alentours du puits. Souvent, d'après ce que j'en sais, il est conseillé de mettre un peu de gazon tout autour pour que, par exemple, les eaux des ruissellements ne puissent pas couler dans votre puits. Et s'il y a moyen, le couvrir, c'est-à-dire construire un peu un petit ouvrage qui protège l'entrée du puits, c'est-à-dire l'orifice par lequel vous prenez de l'eau. Et ensuite, troisième précaution, il faut savoir quelle est la nature, la composition chimique et bactériologique de votre eau. Il faut le savoir. Il faut pas le faire parce que vous dites souvent, ou nous disons tout le temps, que l'eau c'est la vie. Eh bien, c'est pas une blague, parce que notre corps a une grande partie, il n'y a que de l'eau. Même le poids que nous avons, c'est en fait le poids de l'eau en grande partie. Donc, la précaution la meilleure, c'est un, s'il
vous avez des moyens, construire une citerne, par exemple, où vous pouvez stocker de l'eau de pluie, c'est plus facile à faire que prendre le risque de forer une petite nappe qui reste dans le risque de contamination. Mais dans le cas des puits, il faut protéger d'abord le puits lui-même en y mettant par exemple du gazon tout autour pour que les eaux de ruissellement ne l'atteignent pas facilement. Et en amont, il faut que ce puits soit très éloigné, assez éloigné, le plus possible des sources de contamination. Et surtout, des fosses septiques, le cas échéant, parce que ici, souvent, les puits sont forés dans dans les parcelles. Mais aussi, vous savez qu'il y a des puits qui sont forés pour arroser, par exemple, les champs, les légumes. Mmh. Ah, voilà. Et ces puits-là sont souvent, nous avons vérifié, sont souvent pollués. Pollués par quoi? Par les engrais. Parce que lorsque
ces puits-là n'ont pas besoin, ces puits-là n'ont pas besoin d'être entretenus parce que c'est pour arroser les cultures.
Attention, ils ont besoin d'être entretenus. Pourquoi? Parce que lorsque l'eau est polluée, n'est-ce pas? Vous arrosez avec de l'eau qui est contaminée aux matières fécales, par exemple. Alors, lorsque vous produisez des salades. Les salades, ça se prépare pas. Donc, vous allez les consommer comme ça. On va les laver, mais il y a des germes qui sont sur les feuilles. Et donc, vous pouvez comme ça décimer une population. C'est comme ça que vous voyez des gens qui attrapent des diarrhées après avoir pris une salade. Voilà, des fruits, des petits vins comme des concombres, tout ça. Donc, vous pouvez comme ça empoisonner le peuple. Sans le savoir, parce que l'eau avec laquelle vous arrosez votre jardin est contaminée. Et donc, il ne s'agit pas seulement de la salubrité de l'eau pour boire, de l'eau potable, mais non, de la qualité de l'eau qu'on doit utiliser pour faire la vaisselle, pour... La lessive, je comprendrai encore parce que, mais au soleil, et puis après on repasse, ça passe par plusieurs processus qui peut éliminer certaines choses. Mais par exemple, vous savez que les métaux lourds sont fixés aussi par les feuilles. C'est-à-dire que vous pouvez produire des légumes qui sont pollués. Des légumes qui sont dangereux, qui sont presque des poisons. C'est comme ça que vous voyez qu'on interdit, par exemple, qu'on cultive dans les zones où il y a un grand trafic routier, par exemple.
D'accord. On va accueillir M. Dominique qui est de nouveau en ligne, Dominique Soa. Une autre question de savoir, par exemple, pour les sources où on voit de l'eau sortir de la terre, il y a des sources comme ça où l'eau est claire, les gens viennent puiser sans problème. Comment bien entretenir ces genres de sources d'eau?
Oui, je m'excuse, tout à l'heure j'ai été déconnecté. Je n'ai pas pu suivre la réponse qui a été donnée à notre collègue, à notre ami de Bounia, de Boutembo plutôt. Si vous permettez, je peux en dire un mot, à moins qu'il soit satisfait de la réponse qui lui a été donnée.
Allez-y.
Boutembo, c'est vrai qu'à Boutembo, il y a une bonne pluviométrie. Je connais bien Boutembo. Je sais qu'il y a des sources partout. Mais malheureusement, Boutembo connaît des problèmes en ce moment à cause de la déforestation. Donc, l'infiltration des eaux ne se passe plus comme par le passé. Les collègues doivent savoir que la plupart des zones de recharge qui alimentent les sources à Boutembo sont devenues soit des pâturages, soit on a fait des champs et on a décimé la forêt. C'est un peu préoccupant pour ce qui est de Boutembo. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne Boutembo et Bukavu, en ce qui concerne les sources d'eau souterraines, vous savez qu'a priori, si ces eaux sont en dehors de la zone habitée, a priori, on leur donne les bénéfices de la potabilité si l'on... potabilité liée à la question de la contamination bactériologique. Je ne dis pas en ce qui concerne la contamination chimique ou la pollution chimique qui viennent des dissolutions de minéraux dans l'eau. Mais on sait que dans nos villages et partout, les gens recourent à ces eaux qui sont souvent éloignées de nos zones d'habitation. Alors, depuis des années, on a développé une théorie, celle d'essayer de protéger la sortie de l'exutoire de cette source à l'air libre. Parce que vous savez, en fait, la source, c'est la nappe qui rencontre, qui sort au niveau d'une nappe, d'une surface topographique. Et donc, ce que l'on essaie de faire, souvent, c'est de protéger la source, donc la partie exutoire de celle-ci, de manière à ce que les eaux superficielles ou les autres contaminations extérieures ne rentrent en contact avec cette eau qui, de nature, a été purifiée par les différentes successions de couches qu'elle a traversées. Et donc, la protection, c'est pourquoi on parle d'une source aménagée. Il faut faire l'aménagement. Et très souvent, les gens utilisent soit un peu de béton pour couvrir l'exutoire de la source, d'autres encore de la tarpoline, d'autres encore de l'argile, parce que l'argile étant intacte, étant imperméable, et donc ça permet d'avoir une certaine étanchéité. Mais il faut protéger cette source pour que les gens ne mettent pas les pieds dans là où ils puisent et en même temps ils prennent l'eau. C'est ce qu'on appelle l'aménagement d'une source. Et ça, généralement, on leur accorde les bénéfices de la potabilité bactériologique. Toutefois, il faut toujours, toujours, et ça je pense, c'est le rôle des zones de santé, de faire les analyses de la qualité de l'eau de ces sources avant de la déclarer potable. Alors, maintenant, dans les villes, moi je suis un peu réservé en ce qui concerne les villes, les grandes villes comme Kinshasa, comme Kisangani, comme
Lubumbashi.
Toutes ces grandes villes, avec l'accumulation de personnes, la densité de population, on ne sait pas très bien d'où viendra la pollution. Et là, vraiment, il faut, même si on protège la source, il faut absolument aller faire les analyses recommandées pour s'assurer qu'on n'a pas une eau de mauvaise qualité et qu'on a une eau de bonne qualité et nécessaire à l'organisme. Nos eaux souterraines sont fragiles, elles doivent être protégées. Et lorsqu'on a fait un forage qui a échoué, il vaut mieux le reboucher plutôt que le laisser ouvert pour que les enfants n'y jettent pas de piles. Moi, j'ai peur des piles toxiques parce que ça contient des métaux lourds, notamment le plomb. Et le plomb, c'est quelque chose qui est décrié, qui est à la base de beaucoup de pollution. Et c'est un métaux lourd très dangereux pour la santé de l'homme. Donc, je pense qu'il y a de façon simple d'aménager ces sources-là, mais il faut retenir que ce qui est important, c'est que les eaux de ruissellement extérieur ou les éléments extérieurs à cette eau ne peuvent être en contact avec celle-ci avant qu'elle ne tombe dans la casserole ou dans les seaux de la personne qui puise. Et là, à ce moment-là, on peut protéger cette eau-là et l'amener au village pour la consommer.
Bien, on va clôturer cette émission sur la gestion efficace des eaux souterraines. Bon, comme je le disais au début de cette émission, il y a de plus en plus de puits un peu partout à travers la ville de Kinshasa, mais les invités nous ont dit comment il faut entretenir, gérer ces espaces pour éviter la contamination. Alors pour terminer, Monsieur Serge Pangou, est-ce qu'une eau de forage peut être utilisée comme une eau de consommation, de boisson?
Oui, évidemment. Mon collègue vient de vous dire tout à l'heure que il faut prendre des précautions. La première précaution, évidemment, c'est de savoir quelle est la nature, quelle est la composition chimique et bactériologique de cette eau. C'est-à-dire, il faut la faire analyser simplement. Précaution que le commun des mortels ne prend pas d'habitude. Et ça, c'est une très grande erreur. De deux, il faut savoir aussi où se localise cette source. Comme il vient de dire, si vous allez par exemple à Kipese aujourd'hui, on vous parle de la source Vampa qui est devenue un lieu touristique. Je ne sais pas si vous y avez déjà été.
Non,
mais l'eau qui sort de la roche,
parce qu'il y a le plateau des Bangou, il y a beaucoup de roches calcaires, c'est un milieu karstique, il y a des calcaires, il y a beaucoup d'eau, mais l'eau qui sort de cette roche-là à Bangou, c'était l'eau, même quand vous la prenez, vous avez une autre saveur. Mais quand vous venez à...
Allô? Bien, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Monsieur Serge Pangou n'est plus en ligne. Je rappelle qu'il est géographe et hydrologue. Merci d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, à la dernière minute, on l'a perdue. Nous disons également merci à Monsieur Dominique Sowa, directeur général de l'ONG ADIR, Action pour le développement des infrastructures en milieu rural. Excellente journée et à la prochaine.